Le fait en soi, Jacques, n'est pas rare. Nelson Mandela en 1990 et en 1994, donc deux fois, s'est adressé au Congrès américain. En 2018, c'était Macron. 2016, c'était le Premier ministre indien Modi. Le pape François en 2015. Mais ce qui est particulièrement rare, pour ne pas dire tout simplement inédit, qui est historique, Jacques, c'est le fait qu'il l'ait fait en virtuel. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un chef d'État, que quelqu'un, en fait, qu'un leader, qu'il soit national ou étranger, s'adresse au Congrès américain de manière virtuelle avec cet écran immense qu'il y avait en face des députés et des sénateurs américains. De ce point de vue-là, c'était tout à fait historique, plus le fait, bien entendu, qu'on est en situation de guerre et que le leader qui s'adresse à eux est un président en guerre.
Volodymyr Zelensky a donc renouvelé son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Mais le Congrès américain est-il du même avis que le président Biden, qui a déjà dit qu'un no-fly zone pourrait entraîner une troisième guerre mondiale?
Il y a quelques congressmen et quelques sénateurs, ça et là, qui pensent qu'il est possible d'avoir une zone d'exclusion aérienne, ne serait-ce qu'une limitée, ou certains l'appellent une zone d'exclusion humanitaire. Mais la majorité, je dois dire, partage l'idée de Joe Biden. Les États-Unis ne peuvent pas s'engager et l'OTAN ne peut pas s'engager dans une telle aventure, parce que ce serait une véritable aventure dans la mesure où il y aurait un risque évident de guerre nucléaire. Parce que le problème, vous savez, c'est que c'est une chose de déclarer une zone d'exclusion aérienne, mais ensuite il faut pouvoir s'assurer du respect de cette zone d'exclusion. Et c'est là où le bât blesse, parce que pour pouvoir la faire respecter, il faut que des avions de l'OTAN, des militaires américains, des aviateurs, des pilotes américains se mettent à pourchasser les avions russes qui éventuellement violeraient cette zone d'exclusion. Et à ce moment-là, bien entendu, on rentrerait dans un conflit ouvert entre les États-Unis, voire l'OTAN, avec la Russie, et ça pourrait être une catastrophe mondiale.
En revanche, après l'intervention de son homologue ukrainien devant le Congrès américain, le président Biden a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe sans précédent d'$1 milliard en une semaine. Quelle lecture faites-vous d'un tel soutien de Washington à Kiev?
À la seule exception d'un engagement militaire direct, les États-Unis semblent faire le maximum possible pour soutenir l'Ukraine en étant un leader par rapport aux sanctions historiques d'une proportion encore jamais vue contre la Russie, par rapport à une aide militaire directe, un certain nombre d'armements, mais également d'un point de vue financier, comme vous venez de le dire. Et je passe maintenant sur l'aide et le soutien politique. On en a parlé, cette adresse au Congrès américain. Joe Biden, qui la semaine prochaine va en Europe à Bruxelles, et peut-être même éventuellement en Pologne, ce n'est pas encore confirmé. Tout cela pour apporter un soutien qui me semble sans précédent pour l'Ukraine. Mais tout cela, bien entendu, avec la limite suivante, les États-Unis n'ont aucune intention de s'engager militairement, de soutenir directement militairement l'Ukraine.